Bien, nous allons prendre nos Bibles une fois de nouveau et regarder ensemble dans Hébreux chapitre 11. Et mon texte aujourd'hui est à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Et je voudrais vous parler de la foi d'Abraham et Sarah. C'est intéressant que dans tous ces exemples de la foi que nous avons ici dans Hébreux 11, tiré de l'Ancien Testament, il n'y a que deux femmes qui sont mentionnées. Il y a Sarah, la femme d'Abraham, mentionnée ici dans le verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Et puis, vers la fin du chapitre, le verset 31, encore, c'est par la foi que Rahab, la prostituée. Alors, d'autres, quand ils pensent à Sarah, peut-être qu'ils pensent que Sarah, dans sa moralité, est une femme plus vertueuse que Rahab, apprécier une prostituée. Mais ces deux exemples nous sont donnés pour que nous sachions que lorsqu'il s'agit de ceux que Dieu a choisis et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde payer leurs dettes, que ce n'est pas une question de moralité quelconque, mais la grâce. Ça fait la même grâce de Dieu envers Sarah, femme d'Abraham, que Rahab, la prostituée. Et le fait qu'il n'y a que deux femmes citées ici ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres. Nous avons des exemples dans l'Ancien Testament, par exemple Ruth et autres qu'on pouvait citer. Mais ce que nous voyons ici sont des exemples de la manière que Dieu révèle son Fils dans son peuple et la foi qui est révélée concerne le Seigneur Jésus-Christ. Alors ici dans mon texte, nous allons lire ça d'abord, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Notons, recevoir en héritage, pas par mérite, mais comme héritier, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Aujourd'hui, on appelait cette terre la terre sainte, parce qu'ils ont fait de la terre une idole. Mais non, c'est la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, des co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé du corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pensez, Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, je ne sais pas si nous pouvons arriver jusqu'au bout dans ces versets, mais ce que nous n'arrivons pas à approfondir aujourd'hui, nous allons reprendre la prochaine fois, surtout dans le verset 17 à 19, en ce qui concerne la foi d'Abraham par laquelle il a offert Isaac selon ce que Dieu lui a dit de faire. Mais la première des choses en ce qui concerne la foi d'Abraham et de Sarah, c'est à remarquer que l'obéissance est le fruit d'une foi révélée. Nous avons déjà vu que cette foi représente le Christ, c'est la révélation de Christ. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à qui que ce soit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est l'esprit de Christ qui révèle Christ dans les cœurs de ceux que le Père a choisi et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Mais déjà, depuis le début, nous voyons que ceux de l'Ancien Testament avaient cette même foi qui leur a été donnée ou révélée que nous avons aujourd'hui, si nous sommes les enfants de Dieu. C'est la même foi. Eux, ils ont reçu l'Esprit pour regarder en avant à Christ et son œuvre qu'il devait accomplir. Nous, nous regardons en arrière, voyant celui qui est venu, effectivement, selon ce que Dieu a promis et ordonné. Mais c'est la même foi. Mais là où il y a cette foi révélée, il y a cette vocation, comme c'est écrit ici. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, cela nous indique déjà que sans cette vocation de Dieu, cet appel de Dieu, Abraham ne pouvait pas avoir la foi. Mais qu'est-ce qui a démontré qu'il avait cette foi qui lui a été donné? C'est grâce à cette vocation et à cause de cette vocation, il a obéi. Encore, l'obéissance ne fait pas part de notre nature. Si nous arrivons à obéir à cette vocation de Dieu, de venir à Christ et de croire en Christ, ça c'est le don de Dieu, ça ne vient pas de nous-mêmes. Paul, en écrivant aux Éphésiens, l'a bien précisé dans le chapitre 2 de son épître. Il dit, dans le verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Quand c'est écrit par le moyen de la foi, ce n'est pas la foi qui sauve. Ici, c'est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais le moyen de la foi, c'est la manière que Dieu fait entrer dans cette foi concernant Christ, cette grâce. C'est par la révélation de Christ, le moyen de la foi. Mais notons clairement dans le verset 8, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Tout ce qui comprend le salut, c'est le don de Dieu. Et le verset 9, ce n'est point par les œuvres. Donc, Abraham ne pouvait pas se vanter d'avoir eu la foi, parce que ça ne lui appartenait pas. C'est le don de Dieu qu'il a reçu comme héritier, comme exactement nous qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est écrit dans le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc cet ordre est très important. Nous sommes son ouvrage. Sans Christ, nous ne sommes rien. Sans la vie qu'il nous donne, nous ne sommes rien. Et donc, le fait que nous soyons en Christ, que nous ayons même la connaissance de Christ, ou bien l'intelligence de Christ que la foi donne, ça c'est comparé à celui qui est créé en Jésus-Christ, de la même manière qu'il a dit que le monde soit au début, et que le monde fut ici, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Le mot « bonnes œuvres » veut dire, c'est le fruit qui rend gloire à Dieu, comme nous sommes en train de lire ici dans Hébreux chapitre 11. Tous ces actes, tous ces exemples de ceux qui ont, grâce à la révélation de la foi, ont agi selon cette foi. C'est ainsi que ces choses ont été, notons, préparées d'avance par Dieu, afin que nous les pratiquions. Donc en rien, l'homme ne peut prendre la gloire pour dire que non, c'est grâce à ma décision, ou bien mon soi-disant libre arbitre, que je suis ce que je suis. Non. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu si nous sommes véritablement enfants de Dieu. Donc, ça c'est important de garder cet ordre, revenant ici dans mon texte, dans Hébreux 11, le verset 8. Notons, précédé par la foi, suite l'obéissance. C'est en raison de la foi, c'est-à-dire Christ révélé en Abraham, qu'il est parti sous la direction de Dieu, même ne sachant pas pleinement la fin de tout cela. Parce que c'est écrit dans le verset 8, il est parti sans savoir où il allait, sans avoir vu d'abord cette terre promise, mais dirigé par l'Esprit de Dieu, il est parti. Ouais, c'est comme ça que nous vivons. Nous avons les Écritures et nous voyons ce qui est écrit concernant le salut qui est en Jésus-Christ. Mais je dois dire, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus lui-même de mes propres yeux, et vous non plus, si vous êtes enfant de Dieu. Mais c'est par la foi. La foi ne marche pas selon ce qu'on voit, mais la foi reçoit de Dieu cette révélation telle que c'est dans sa parole. Et c'est ainsi comme Abraham que nous partons. Je n'ai jamais vu le ciel, mais je crois fermement qu'à la fin de ma vie, exactement comme Abraham, que c'est écrit que lui et tous ceux de l'Ancien Testament, comme nous, sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Je n'ai pas encore vu le ciel, mais je vois ce que la Bible dit là-dessus, et je crois que lorsque je meurs, je rentrerai dans la présence de Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et que Christ sera là exactement comme il est détaillé ici dans les Écritures. Donc nous avons cette même foi d'Abraham qui est parti sans avoir d'abord vu cette terre promise, mais arrivé, il a trouvé exactement comme Dieu lui a révélé. Alors, dans les versets 9 et 10, nous voyons le voyage de la foi. C'est un séjour. La foi n'est pas une expérience qu'on a une seule fois et puis c'est fini. Donc, une fois que Dieu, par son esprit, révèle Christ en nous, ça nous met sur un chemin comme des pèlerins qui marchent sur cette terre tout ayant les regards sur Christ. Comme nous allons voir dans le prochain chapitre, dans Hébreux 12. Quand ça mentionne dans Hébreux 12, le verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. De quels témoins est-ce qu'il parle? Il parle de ceux dans le chapitre 11. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Voilà ce que je dis, c'est une course. C'est un séjour dans la foi. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est ce même séjour qu'Abraham lui-même a parcouru, ayant reçu l'appel de Dieu et quitté le pays où il était. C'était un pays idolâtre. Et il devait sortir de là pour aller là où Dieu allait l'établir et des années plus tard, allait faire venir de lui, de son sein, de sa postérité, celui qui devait être le sauveur de son peuple. Mais cette vie de foi, en attendant la réalisation de ces choses, il devait vivre comme un étranger qui résidait à l'étranger. Vous savez que si nous sommes appelés de Dieu, et c'est ce qui est écrit dans le verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Cela nous rappelle que nous qui sommes à Dieu et qui sommes ses enfants, nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous avons une double citoyenneté. Nous vivons dans ce monde comme citoyens, mais comme c'est écrit ici dans le verset 10, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Rien dans ce monde n'est permanent. Tout ce que nous faisons ici, c'est de vivre nos vies en attendant la réalisation de passer l'éternité avec ce Dieu qui est venu dans la chair et à marcher parmi nous pour satisfaire à la loi la justice de Dieu, et puis est monté au ciel où il vit pour intercéder en faveur de chacun pour qu'il est mort jusqu'au jour où le dernier est appelé par sa grâce, et c'est ainsi qu'il reviendra. Alors, c'est cette même foi qui a soutenu Abraham durant son séjour, et c'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Parce que par quoi, c'est quand nous sommes en voyage, et le voyage est long et ardu, avec beaucoup de périls, mais nous savons qui nous soutient. Mais c'est aussi pourquoi nous ne mettons pas notre confiance en quoi que ce soit dans ce monde. Que ça soit notre santé, que ça soit où nous habitons, Rien dans cela n'est permanent. Notre sécurité n'est en rien dans ce qui concerne ce monde. Mais nous, comme Abraham, nous regardons à cette cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La cité dont il parle là, c'est la présence de Dieu. D'autres utilisent le terme le ciel, mais ce n'est pas qu'il y a effectivement des bâtiments là et des rues en or. Ce sont des termes symboliques pour nous montrer quand il s'agit d'une cité. C'est comme les cités de refuge qui étaient données dans l'Ancien Testament où ceux qui étaient coupables de meurtre devaient courir et dans chaque une de ces cités il y avait un souverain sacrateur qui était là pour intercéder envers ces coupables qui ont fui pour entrer dans la cité. Ça, c'était symbolique de notre cité de refuge, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, vers qui nous parcourons, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Ces deux mots sont importants. Dieu est l'architecte dans son plan éternel qu'il a ordonné qu'il y ait un peuple, qu'il a choisi, pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu, et constructeur, il a envoyé son Fils au moment prévu, après des années. Cette postérité a été promise à Abraham, mais c'est lorsqu'il a plu à Dieu de faire venir son Fils dans le monde que le Fils est venu. Né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi. C'est lui l'architecte et le constructeur. C'est pourquoi nous avons cette espérance aujourd'hui. Mais, comme avec Abraham, nous habitons dans des tentes. Ainsi avec Isaac et Jacob. Ils étaient les héritiers de Dieu, mais ils habitaient dans des tentes. C'est comme nous, nous habitons dans des tentes physiques, dans ces corps. Mais comme toute tente qui existe, la tente n'est pas une résidence permanente. On doit un jour plier cette tente pour en finir avec. Et c'est ainsi que nous vivons. Mais, dans nos tentes, c'est-à-dire ces corps dans lesquels nous vivons, nous avons les richesses de Dieu en Jésus-Christ. Donc, comme Abraham et comme Isaac et Jacob, nous regardons au-delà de tout ce que nous pouvons voir ici dans ce monde. Et nous cherchons, nous sommes attachés encore par quoi à cette cité dont les fondations, il n'y a qu'une seule fondation qui n'a jamais été posée, c'est Christ, et Christ crucifié. Donc, voilà un résumé de la foi d'Abraham. Et c'est la même foi qui est donnée à tous ceux que Dieu a ordonné au salut et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'est ainsi dans les versets 11 et 12. Attaché à Abraham, c'est sa femme. Les deux étaient unis, comme c'est le cas de ceux qui sont mariés, que la femme quitte ses parents et s'attache à son mari, et les deux deviennent une seule chair. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas où vous avez un qui est croyant et l'autre aussi croyant. Il y a parfois où il y a peut-être dans un mariage un couple où l'époux est peut-être enfant de Dieu, mais l'épouse n'est pas, ou au contraire, c'est l'épouse qui est croyante, mais non pas l'époux. Mais dans ce cas, en ce qui concerne Abraham et Sarah, nous avons l'évidence ici que les deux étaient les objets de la grâce de Dieu. Quelle bénédiction quand tel est le cas. Et donc, dans le verset 11, c'est pas la foi, c'est la même foi. C'est la même révélation de Christ. Chaque fois que vous voyez ce mot-là, foi, c'est la révélation de Christ. Ce n'est pas une expérience personnelle ou bien une décision qui provient de nous, non. C'est la révélation de cette foi de Christ. C'est par cette même foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Dans ce cas, on peut lire ces mots dans le verset 11, quand c'est écrit par la foi, c'est à cause de la foi. À cause de ce que la foi représentait dans la personne et l'œuvre de Christ. C'est ainsi, parce que Dieu a promis à Abraham une postérité, c'est ainsi Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Déjà, ces mots nous indiquent que ce n'était pas selon les moyens de Sarah. C'est pourquoi Dieu a attendu avant de réaliser ce qu'il avait promis à Abraham, qu'il devait même dans son âge avancé avoir un enfant, une postérité, mais Dieu a attendu à ce que les deux soient d'un âge avancé. Mais que c'est Dieu qui a rendu Sarah capable d'avoir une possibilité. C'est toujours comme ça. C'est comme ça dans notre salut, que sans l'œuvre de Christ en nous, l'Esprit nous donnant la vie de Christ, aucun de nous ne pouvait avoir cette vie. Mais c'est écrit ici parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Notons, ce n'est pas à cause de sa croyance qu'elle a été alors rendue capable d'avoir cette postérité. Parce que nous savons dans l'histoire concernant Sarah, lorsque ça a été révélé qu'elle devait avoir une postérité, elle a ri. Si vous regardez avec moi dans Genèse, chapitre 21 et le verset 6, nous voyons cela. Donc si ça dépendait de Sarah et de sa croyance, elle n'aurait jamais eu cette postérité. Genèse chapitre 21, commençons dans le verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta verset 7, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah a l'intérêt des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Vous voyez, c'est par là que nous comprenons que cette capacité d'avoir un enfant ne dépendait pas de Sarah elle-même, mais c'est par la foi. Dieu lui a donné cette foi de croire à sa fidélité et à ce qu'il avait promis. Et c'est comme ça que nous croyons. D'ailleurs même, le nom Isaac signifie rire. Et en fait, ça fait rire. Mais non pas dans le sens de ridiculiser le fait qu'Isaac a été né, mais rire dans le sens de se réjouir et être étonné comment cela puisse être arrivé. Et nous savons que si Dieu a fait une œuvre de grâce en nous, c'est la même chose. Nous sommes étonnés. Et on peut dire dans le même sens, nous rions de penser, d'imaginer que Dieu ait pu prendre des pécheurs morts dans leur péché, comme Sarah était déjà à un âge avancé, incapable d'avoir un enfant, mais c'est le Seigneur qui l'a rendu fructueux. Et c'est comme ça, notre salut. S'il y a la gloire à donner, c'est toujours à Dieu et non pas à nous. Mais ce qui est nécessaire de comprendre en ce qui concerne la foi de Sarah, c'est la dernière partie du verset 11, qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Voilà, l'objet de la foi est toujours à celui qui donne la foi, c'est-à-dire Dieu et son Fils. Et donc, nous croyons à sa fidélité d'accomplir ce qui avait été promis. Qu'est-ce qui est promis à ceux que Dieu a choisis? C'est le salut. C'est le pardon de tous nos péchés en Jésus-Christ. C'est la justification par le sang de Christ qui nous est promise. Alors, c'est la foi qui fait que nous appréhendons ce Sauveur et que nous le voyons pas avec des yeux physiques, mais spirituels, et que nous croyons. Cette postérité promise à Abraham est décrite ici dans le verset 12 comme une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Il s'agit là non pas seulement d'une postérité physique, parce qu'il y en a qui disent, ah, mais voilà, les Juifs qui sont sortis d'Abraham. Mais il faut savoir aussi que les Arabes sont sortis d'Abraham. Et ensemble, quand on compte aujourd'hui le nombre de ces pays arabes ainsi que juifs, on peut dire oui, c'est en quelque sorte une possibilité nombreuse, mais pas dans le sens que nous voyons ici où c'est écrit un nombre comme les étoiles du ciel et comme le sable qu'on ne peut compter. Là, ça doit représenter plutôt un nombre spirituel. Et c'est effectivement de cela que Paul a écrit dans son épître aux Galates. Et le chapitre 3, le verset 16. Donc, quand il s'agit ici d'une postérité, cela va au-delà d'une simple postérité physique. Oui. Dieu a accompli à travers la postérité physique d'Abraham tout ce qu'il avait déjà ordonné. Mais il y a une postérité que je crois ces versets représentent qui est spirituelle. Et c'est de ça que Paul a écrit dans Galates chapitre 3, le verset 16, notons, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, notons, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc quand il s'agit ici d'une promesse de Dieu accomplie. Et comme c'est écrit dans le verset 12, par un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse. Il est en train de parler de Christ. Et dans cette postérité de Christ, alors, il y a un grand nombre qu'aucun homme ne peut compter, comme c'est écrit ici. Ça représente tous les élus de Dieu depuis l'éternité pour qui Christ est venu donner sa vie. Et cette postérité ne comprend pas simplement les Juifs, mais c'est une postérité tirée de chaque nation choisie par Dieu, comme nous lisons ici dans Apocalypse chapitre 5. Et le verset 9, nous avons ici une représentation de ceux qui sont autour du trône de la grâce de Dieu et ils chantaient un cantique nouveau, Apocalypse 5, 9, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Le livre ici représente tout ce que Dieu a destiné et tout ce qui doit se passer déjà ordonné. Dans le verset 1 de ce chapitre 5, c'est écrit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Il n'y avait qu'un seul qui pouvait ouvrir les sceaux, rompre les sceaux, si ce n'est l'agneau lui-même, assis sur le trône, ayant accompli tout ce qui est nécessaire pour le salut de son peuple. Donc c'est ceux-là qui sont maintenant en train de chanter, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, non, par ton sang, des hommes, pas tous les hommes, mais des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait deux, un homme, un voyant, des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alors, voilà ce nombre de la postérité du Christ qu'on ne peut pas compter. Et ceux-là ont tous cette foi qui a été donnée à Abraham grâce à Christ. Et puis, nous allons terminer en regardant les versets 13 à 16. Quelles sont les leçons alors que nous pouvons apprendre de ce que la foi d'Abraham et Sarah nous enseignent? Premièrement, nous voyons que cette foi nous donne une espérance au-delà même de cette vie. Même au-delà de la mort, parce que c'est écrit dans le verset 13 que c'est dans cette foi qu'ils sont tous morts. Le fait d'avoir cette foi et la grâce de Dieu ne nous assure pas ou bien nous préserve de la mort physique. Bien sûr, la mort spirituelle, ceux qui sont de cette foi ne vont jamais souffrir de la seconde mort, comme la Bible en parle de l'enfer et du jugement. Non, nous sommes sauvés par cette grâce, mais cela n'empêche que nous allons tous mourir. Mais néanmoins, c'est cette foi qui nous donne cette espérance sûre et solide en face là. Parce qu'Abraham et Sarah sont morts depuis bien des milliers d'années. Pourtant, ils vivent aujourd'hui auprès de ce même Seigneur qu'ils ont vu de loin par cette foi. En attendant à ce que les autres que Christ a rachetés, tels que nous sommes, nous allons les rejoindre avec un seul but, comme nous avons vu dans Apocalypse 5, adorer l'agneau immolé. Donc c'est cette même foi qui nous donne cette espérance. Bien sûr, dans cette vie, nous n'avons pas encore vu de nos yeux la réalisation de tout ce qui est écrit. et ce qui est promis, mais néanmoins, nous allons à la mort, croyant ce que Dieu lui-même a promis, comme c'est écrit dans le verset 13, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est tout ce que nous sommes. Notre vraie cité est auprès du Seigneur. Et ceux qui parlent ainsi vont, qui cherchent une patrie. Patrie, ça c'est notre véritable héritage. Il n'y a pas de distinction en ce qui concerne ceux qui sont après. On ne peut pas dire que mais tel est juif ou tel est païen. Tel est femme, tel est homme. En Christ, nous sommes un. Notre patrie, c'est Christ et ce qu'il a accompli à notre égard. C'était s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ça nous montre que c'est à cette vie que nous sommes appelés, de laisser en arrière tout ce que nous étions nés en Adam, nés dans ce monde comme des pécheurs, nous n'y retournons pas, exactement comme les enfants d'Israël ne sont pas retournés en Égypte, ni Abraham retourné dans son pays natal, ce n'était pas là qu'il regardait. Mais ils ont embrassé, prenant la promesse de Dieu par la foi qui leur a été donnée, Abraham et Sarah, maintenant, n'avaient que des regards qu'en avant. Et c'est pourquoi, dans le verset 16, ils disent, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Voilà ce que le monde ne peut pas comprendre, parce que le monde lutte pour rester ici et toujours essayer de gagner davantage, soit de l'argent ou bien une meilleure position dans la société. Ils luttent parce que ils sont encore dans la chair. Et tel serait notre cas si ce n'était la grâce de Dieu. Mais si nous avons cette foi, nous avouons avec Abraham et Sarah et les autres que nous ne sommes que des étrangers et des pèlerins. C'est pourquoi nous ne cherchons pas nous établir davantage dans ce monde, mais ayant toujours cette promesse, ayant cette compréhension que ce monde n'est pas notre habitation, comme pour Abraham et Sarah. Il savait, nous savons que Dieu a un foyer meilleur et plus durable pour ceux qu'il a choisi et que Christ a racheté. Et c'est ainsi que nous marchons dans cette vie. Alors j'espère que cela est un encouragement pour nous et Dieu voulant prochainement nous allons revenir ici pour voir un exemple en particulier où Abraham a exercé la foi que Dieu lui a donnée tout en offrant Isaac, comme Dieu lui a dit de faire, mais que Dieu l'a préservé. Donc, ça c'est notre prochaine leçon du voulant. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen.